Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Toutes et à tous. Oh, le studio, il est particulièrement bien garni là pour cette émission du la 80e émission de Mon Paris Sport. Tiens, je vais simplement dire à nos amis de la technique qu'on entend un fond musical dans nos oreilles. Voilà. En tout cas, je vais saluer ceux qui sont avec nous ce soir. On va commencer avec notre ami Julien Paco. Bonsoir Julien, l'homme du basket hein, qui vous a concocté un bon podcast le mois dernier, qui va continuer à le faire régulièrement au cours donc de notre de ces mois qui arrivent. Bonsoir Julien.
Bonsoir Philippe.
Ça va, pleine forme ?
Ça va très bien et toi ?
Ouais, bah ça va très bien. Et donc tu vas accompagner, on l'avait croisé aussi, on est content. On va parler de coaching sportif avec notre ami Morian Koumbou, c'est ça ? Bonsoir Morian.
Bonsoir Philippe.
Ça va ?
Merci pour l'invitation.
Accompagné aussi d'une collègue,
c'est
Astrid.
Ça, de mon binôme justement.
Ouais, le binôme.
Hein. Qui m'aide dans la préparation mentale.
Voilà. Qui intervient dans le sport. Bon, pas que dans le sport, mais ce soir, on parlera de sport.
Hein. Bien sûr.
Voilà. Et puis, je vais saluer. Elle a beaucoup travaillé cette semaine. Hein. Elle n'a pas arrêté. Elle a suivi tous les internationaux de badminton, à l'Adidas Arenas, justement, le temple du basket.
Le nouveau, exactement.
Ouais. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Voilà.
Bonsoir.
Et puis, on va avoir dans quelques minutes aussi notre ami Benoît, qui va nous parler de cette folle semaine de MMA que l'on a vécu. On va commencer comme promis par le basket. Alors, Julien, le basket, c'est ta vie ?
On peut
Ou ça l'a
ça.
Été une...
Alors, on va dire que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que... alors, il faut savoir que je suis informaticien de profession. Mmh. Voilà. Le basket est une passion qui m'habite depuis, j'ai 42 ans, depuis l'âge de 14 ans, donc il faut faire un peu le compte. Si je ne m'abuse, ça fait à peu près 28 ans. Voilà. Mmh. Donc, c'est une passion vraiment...
Alors, c'est arrivé comment dans ta vie ?
Écoute, il faut savoir que j'ai un oncle qui était international camerounais. Mmh. Voilà. Maintenant, il est un peu âgé, donc il a rangé les baskets dans le placard. Et ça a commencé avec lui. Je l'accompagnais dans des compétitions au Cameroun et par la suite en France, parce qu'il a fait un peu de national après sa carrière professionnelle.
Et c'est un sport qui est très pratiqué au Cameroun.
Il y a
des gymnastes faciles à trouver.
Oui, alors il n'y en a pas énormément. Il y en a surtout dans la capitale économique, dans la capitale fédérale, que sont Douala et Yaoundé, où tu as pas mal de gymnases dans les lycées, dans les universités, qui sont relativement accessibles. Voilà. Mmh. Voilà. Et on a un très gros vivier de jeunes joueurs et joueuses au Cameroun.
Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le tennis.
Exactement, il y a aussi le basket.
Donc, tu arrives en France, c'est ça
Alors non, moi je suis né en France, je suis né dans le 14e.
D'accord.
Donc de 5 à 10 ans, je vais au Cameroun pour rejoindre mon papa qui a créé sa boîte avec ma maman qui finissait son droit. Elle est juriste de formation. À l'âge de 5 à 10 ans, je suis au Cameroun. Et à 10 ans, je reviens en France. Dans le 13e, chez ma grand-mère.
D'accord. Voilà. Et là, tu prends une licence
Je prends une licence, j'ai 14 ans. Mmh. Donc, je crois que c'est minime. Mmh. 14 ans, c'est minime. C'est ma première
Pourquoi
expérience.
Pourquoi le basket plus que le foot
J'ai joué au foot. Je joue encore de temps en temps, joueur de foot, du dimanche. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'on a fut un temps, on a eu une grosse équipe au Cameroun.
Ouais.
Là, c'est plus trop le cas. Trop le cas. Les Lions indomptables sont un peu domptés ces jours-ci, mais bon, on reviendra.
Ouais, ils sont toujours là.
Mais bon, c'est plus que c'était. Hein. Mais bon, j'ai pas mal joué au foot jeune. Et puis voilà, hein, c'était dans le 13e et dans beaucoup de quartiers. Le sport, le premier sport pratiqué, c'est le foot. Donc j'ai un peu tâté du ballon avec les copains plus jeunes. Et finalement, je suis allé vers le basket parce que c'est un sport dans lequel je me reconnaissais par rapport à la camaraderie qui était celle du basket.
Oui, puis t'es grand quand même. Hein.
Donc, je suis pas petit.
C'est ça.
Je suis pas dans les plus grands baskets, mais bon, c'est clair que je suis pas petit. Voilà.
Alors, justement, tiens, une question. Est-ce que quelqu'un qui serait pas très grand, il peut jouer au basket? Ça lui est pas interdit quand même? Enfin, je veux dire, il peut arriver à un bon niveau malgré tout.
Bien entendu. Oui. Hein, Morian, qui est à côté de moi, voilà, a été international congolais.
Oh, d'accord.
Voilà. Donc, il est coach en préparation mentale aujourd'hui, mais il a été international. Mmh. Voilà.
Morgane, le basket aussi?
Basket aussi, j'ai baigné dedans depuis mon plus jeune âge. Mmh. J'ai jalonné dans différents clubs en France, notamment on va dire à Reims, à La Rochelle, en Suisse.
Ah oui, d'accord.
À Tourcoing, Paris, Saint-Quentin.
À Saint-Quentin quand même.
Saint-Quentin.
Ah oui, ils sont en Charité-sur-Loire maintenant.
Tout à fait.
Donc là, j'ai pas mal jalonné. Et très, très jeune, j'étais en sport études en centre de formation.
Ah, d'accord.
J'étais en équipe de France jeune, notamment à l'INSEP.
Mmh. Ah oui, d'accord.
À l'Institut National d'Éducation Sportive. Et après cela, plus tard dans ma carrière, j'ai pris la double nationalité pour jouer pour mon équipe, pour l'équipe du Congo.
D'accord. Donc combien d'années de basket?
Alors, j'ai fait 15 ans de basket.
Ouais. Et Julien?
En club.
Parce que, Julien.
Voilà, moi, j'ai pas été pro, j'étais jusqu'en national. Oui. Voilà, j'étais jusqu'en pré-national, national 3. Voilà, c'est un petit niveau correct pour un joueur. Voilà. On peut dire, 7 vraies années. Voilà, 7 vraies années en club. Mm-hmm. Voilà.
Et ça a été une belle école de vie.
Très belle école de vie.
C'est ça qu'il faut garder.
Entendu. Bah, le basket, c'est une très belle école, très belle académie dans laquelle tu y apprends des valeurs de camaraderie, des valeurs de respect, le respect des règles, surtout. Et également
la vie en collectivité.
Le partage, exactement. Ah oui, parce que on dit souvent que le basket, c'est le sport individuel le plus collectif. Parce qu'il y a beaucoup d'ego dans le basketball.
Ah ouais?
Voilà.
Plus que dans le foot, oui.
Comme dans tous les sports.
Comme dans tous les sports. Mmh. Mais le basket, c'est très particulier à ce niveau-là.
Ouais. Alors, Morgane, vous avez vécu beaucoup de situations pour le haut niveau. C'est ça qui t'a emmené à devenir coach? Parce qu'à un moment, il faut être bien dans sa tête, quoi.
Oui, c'est clair que les valeurs sportives m'ont énormément aidé. Pour devenir coach en développement personnel et préparateur mental pour les sportifs. Mais je pense que aussi, c'est aussi mon expérience de vie aussi qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et beaucoup de personnes disent est-ce que tu as le diplôme? Oui, j'ai le diplôme, okay, certes, mais il y a aussi ton expérience de vie et aussi ta force de caractère. Ouais, Comment tu vas faire pour rebondir face aux échecs, face même dans des cas de victoire aussi.
Ne pas être trop euphorique, relativiser la victoire, c'est
exactement
important.
Exactement, pas être trop euphorique et relativiser la victoire, mais aussi apprendre à apprendre de soi, apprendre des autres. Comment faire pour être au quotidien la meilleure version de soi-même, parce que c'est pas facile.
Bien sûr, parce qu'il y a un énorme problème, c'est qu'on est ado et on s'en va, on quitte sa famille. Sa famille, on est tout seul comme ça, parachuté. Ça, tout le monde ne peut pas le vivre.
Exactement. C'est ce que ça m'a beaucoup forgé. Dès l'âge de 8-9 ans, j'étais à 50 ans justement en sport études. Mm-hmm. Et ensuite, après, j'ai fait les présélections pour aller à l'INSEP. Donc, je n'ai pas été retenu. Ouais. Mais c'est beaucoup d'expérience aussi par rapport à ça, dû à mon enfance aussi, qui m'ont forgé. Et maintenant que je suis adulte, je suis prêt pour...
Il y a des regrets quand même de ne pas avoir été encore plus haut, ou alors non, finalement on se dit ça m'a beaucoup apporté dans ma vie et ça suffit.
Alors moi j'ai aucun regret de ma vie. J'ai énormément profité en tant que, en tant que sportif. Mm-hmm. J'ai profité des sorties. Il y en a quand même. Bien sûr,
Je sais bien. Non, mais c'est hyper important parce que c'est le rôle d'une coach ou d'un coach. C'est aussi par moment, il faut savoir, comme on dit, lâcher la soupape. Quoi.
C'est ça, c'est important.
C'est aussi, trouver,
ça.
Trouver mais, l'équilibre. Justement,
voilà, c'est, pour, c'est de la psychologie, ça. Ouais, c'est important. Ça.
Pour se réénergiser, c'est hyper important.
Oui, oui. Alors, toujours faire la fête, c'est pas bien, mais la faire quand.
C'est autre chose.
Voilà. Quand on fait une victoire, une grosse victoire, on peut se lâcher, c'est hyper important.
J'ai tout fêté. Hein. Vraiment, j'ai tout fêté parce que ça, pour moi, c'était important. J'ai vraiment savouré. Et puis moi, dans mon plus jeune âge, j'avais personne qui était sportif de haut niveau. Personne ne m'a aidé.
C'est ça la difficulté.
J'ai suivi juste mon grand frère et mes aînés et quelques, on va dire, connaissances familiales dans le basket. Mais personne m'a dit, on m'a aidé à devenir joueur professionnel. Donc, je me suis construit seul, grâce à Dieu. Et puis voilà, j'ai franchi les étapes.
Et ça, on s'en rappelle toute la vie, quoi.
Exactement. C'est ancré en moi, en fait. C'est ancré en moi. Et même des fois, dans les moments de difficulté que je peux avoir.
On dirait que c'était pas plus dur quand j'étais joueur de basket, quoi.
C'est ça.
Ouais. Julien, pareil, les mêmes sensations ? Même si le niveau n'a pas été aussi haut.
Oui, complètement. J'ai eu pas mal de. Moi, il faut savoir que j'ai fait pas mal de tournois, tu sais, hors fédération, des tournois pro AM, comme on appelle ça, des tournois dans lesquels il y a pas mal de pros, de joueurs amateurs, de joueurs semi-professionnels. Et ce mélange des deux, ça crée une concurrence pendant les tournois qui est juste incroyable parce que il y a les pros qui se disent. Ouais, mais de toute façon, ils sont amateurs. On est obligé de les battre. C'est obligé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui est beau dans la compétition hors fédération.
Il n'y a jamais rien qui est écrit.
Exactement. Rien qui est écrit, qui est gravé dans la roche. Ouais. En tout cas, pour ce qui concerne ces compétitions hors fédération. Et il y a les autres, les amateurs, qui se disent lui, il joue dans telle équipe, Nanterre, Paris Basketball ou autre. Il faut que je me le fasse. Voilà. Donc, il va voir ce qu'il va voir aujourd'hui. Et c'est ça qui a toujours, souvent, qui a la plupart du temps donné, et jusqu'à aujourd'hui, des compétitions de très, très, très haut niveau. Et moi, j'ai eu la chance de participer à des tournois, comme je pense par exemple au Quartier Ouest, qui est l'un des plus grands tournois internationaux de France.
Le K54 aussi,
qui est le plus grand tournoi de basketball mondial. Tout simplement, qui est sponsorisé par Jordan et qui a été créé notamment par Thibaut de Longeville et un de mes amis, Amadou Nsidibé, que je salue. Donc, j'ai. Alors, dans ces moments-là, enfin, dans ces tournois-là, beaucoup de moments de doute parce que défaite sur des. En face de grands joueurs, de grands noms du basket français par moment, mais parfois des petites victoires, des qualifications, voilà.
Il y avait un modèle étant jeune.
Modèle.
Nous c'était l'époque d'Akoury, Beugnot, Kossor.
Dans les alors.
C'est parti de notre inspiration.
Super sympa d'Akoury d'ailleurs. Très cool. Pour Paris 2024. Cool.
Alors dans les joueurs français, je regardais beaucoup Moustapha Sonko. Voilà, que j'ai eu la chance de côtoyer un peu. Moustapha Sonko, qui est l'un des plus grands arrières de tous les temps en France. Voilà.
C'était quoi ton poste ?
Moi, c'était poste 2-3. Voilà, donc 2-3. Pas très loin de Sonko, mais juste à côté. Voilà. D'accord. Enfin, de l'autre côté. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, ailier en fait.
D'accord, oui, parce qu'on va rappeler que le basket, c'est interchangeable, et puis il y a des équipes de 5, c'est ça. Hein,
c'est ça, voilà, c'est ça.
Et puis on va rappeler un petit peu tout à l'heure aussi qu'avant c'était en 2x20, maintenant c'est 4x10.
Exactement.
C'est mieux, c'est moins bien.
C'est un autre rythme, c'est-à-dire que c'est un. Il faut être au taquet pendant 10 minutes, vraiment, et ne pas lâcher prise, parce que au basket, et je pense que tu ne me contrediras pas, Mauriane, c'est un sport dans lequel. Tout peut arriver à n'importe quel moment.
On a eu des cas comme ça, hein, voilà. Où une minute et demie, on pouvait avoir 15 points d'avance.
Ah non, mais clairement, il y en a un qui.
Parce que c'est du temps effectif, on va rappeler en plus.
Tout à fait, du temps effectif, tout à fait. Tout à fait. Et il y a le 3-3 qui est. Alors
on va en parler aussi,
olympique.
C'est important.
Qui a un gros contingent français, autant chez les filles que chez les garçons. Voilà.
Alors, je vais d'abord saluer, ils viennent de rentrer dans le studio. Benoît, bonsoir Benoît,
bonsoir,
ça va
tout le monde. Ouais,
tu as vécu une belle semaine en MMA.
Je pense qu'on a vécu une semaine épique.
Tu vas venir nous en parler. Tu sais
on
qu'ils
peut
aiment
dire.
Bien MMA. Hein.
C'est un sujet épineux. On va
Très, très épineux.
Et puis, on va saluer Souleymane qui t'accompagne. Bonsoir Souleymane.
C'est ça, bonsoir. Ouais.
Donc, toi, tu fais du MMA, c'est ça, non?
Alors, moi, non, j'en fais pas. Je suis étudiant en STAPS. Grand fan de sport de combat, pratiqueur de volley.
Bon, t'as un coach là, si tu veux.
Ouais, je sais, j'ai noté ça parce que c'est nécessaire dans les sports type basket, volleyball,
bien sûr,
etc.
Bien sûr,
donc,
bien sûr. Alors, le basket, ce qui est quand même assez sidérant, c'est que championnat français, pas beaucoup s'y intéressent. Ils s'intéressent tous à la NBA,
forcément.
C'est quand même
plus
bizarre,
grand championnat
quand même.
Du monde. C'est bizarre pour la. Alors.
Parce que il y a du mal.
Il y a de l'historique.
Ouais, bah
pour
oui.
Ça, voilà.
Il y a du mal à avoir des matchs diffusés à la télé, bien que maintenant il y en a un peu plus.
L'équipe, par exemple,
l'équipe,
a fait l'effort.
Voilà. Mais ça a été long quand même. Ça a été long quand même.
Ça a été très long.
Ouais. Parce et quand on voit les jeunes, ils s'intéressent tous au basket NBA. Par contre, on va leur dire t'as été voir Paris. Bon, non, pas trop.
Alors Paris, ce qui est bien, je tire le chapeau. Pour
les super
basketball,
sale. Hein.
C'est que en fait, il y a un aspect marketing. Donc voilà. En mettre plein les yeux aux jeunes, qui est fondamental. Et le Paris Basketball l'a très bien compris.
Ah
c'est
oui.
pour ça que
ah oui,
quand
oui.
vous regardez, ne serait-ce que leur community management sur leurs réseaux sociaux.
C'est un Américain, le président, hein, donc fatalement.
Voilà, allons pas plus loin, c'est un Américain, David Kahn.
Oui, David Kahn, oui.
Voilà. Vous voyez leur communication, leurs outils de communication, leur show pendant les matchs. En France, il y a beaucoup de clubs qui font des très belles choses. Mais le Paris Basketball fait peut-être partie des meilleurs en la matière. Voilà.
Oui, alors,
Il y avait le Valois l'année dernière, pardon.
Tout à fait.
Oui,
bah
le Valois qui là, c'est compliqué pour eux cette année.
C'est compliqué.
Wemby
mais bon,
est parti.
Wemby, Bilal
et
aussi.
Et plein d'autres aussi.
Ils sont partis, mais bon, c'est ce qui fait le sport. Hein.
Oui, alors.
Ça tourne. Hein,
il paraîtrait que ce qui est intéressant pour le basket, ce sont les villes moyennes.
Oui. Oui,
c'est vrai, paradoxalement, Limoges, des villes comme ça.
Oui, parce que c'est des
que je traverse
dans
souvent d'ailleurs quand je suis dans le sud.
Bah oui, oui, forcément. Limoges, j'ai fait un camp qui s'appelle la fac de basketball, dont je salue l'organisateur, le fondateur, Franck Chrétien. Limoges, c'est une ville qui est relativement ouvrière, pas énormément d'habitants, je ne me rappelle plus exactement combien. Mais voilà, c'est pas des villes, enfin c'est des villes très
moyennes, dirons-nous. C'est
voilà,
ça
exactement.
Et ça, par contre, la population basket est
exactement.
Très forte,
elle est
très dense.
Ah oui, c'est l'histoire de la ville. Hein.
C'est une histoire c'est de
basket.
Là où il y a Dakoury d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Coupe Korak à l'époque.
Oui. Donc voilà. Et donc c'est la Fédé qui a raté sa com pour le championnat français.
D'une certaine manière, même si aujourd'hui, donc la Fédé, c'est beaucoup rajeuni.
En plus, ils sont pas loin.
Oui, en plus, voilà.
Oui,
on les salue,
on les
bien entendu.
Ouais.
Voilà, sur leur partie communication, ils ont énormément progressé, ils essayent de faire des efforts, et se mettre, entre guillemets, à la page, parce qu'on est dans l'ère des réseaux, etc. Donc... À un moment donné, ils ont raté le coche et ils essayent tout doucement de la rattraper. Voilà.
C'est un plaisir, que c'est quand même, je crois, ça reste encore le deuxième sport pratiqué chez les jeunes, quand même,
exactement.
Le basket. Hein, après
exactement.
Le foot. Hein.
Tout à fait.
Après, maintenant, il y a beaucoup plus de médiatisation qu'on
oui,
voit à la télé.
Aussi,
il y a
heureusement.
Tony Parker qui a pris un impact incroyable
et
qui a vraiment édifié beaucoup de sportifs et beaucoup de jeunes sportifs.
Oui,
aussi.
Puis il veut s'investir en France, ça c'est bien. Ça.
S'investir en
tout
France.
À fait.
Je pense que ça donne un nouvel élan.
Vraiment.
Sans ça, je pense que la Fédé, ça aurait été vraiment compliqué pour eux de perdurer dans le temps. Et faut dire ce qu'il y a, hein, il porte bien son nom, hein, Tony Parker.
Il a un bon cœur.
Il a vraiment créé d'énormes synergies dans le basket et pas que dans le basket. Exactement. On le voit aussi dans le business.
Bah, il passe tous les mercredis sur Qui veut devenir mon associé sur M6. Ouais. Donc, que je regarde tout le temps. Oui, moi-même entrepreneur. Voilà, c'est une réussite.
C'est une belle icône.
Ah non, vraiment. À ce niveau-là.
Après, je pense aussi que la Fédé, je pense aussi avec. Je rebondis là-dessus. Je pense pas qu'ils ont loupé leur com, mais je pense qu'ils devraient plus, pour moi, selon Morian.
C'était le sport numéro 2 à un moment chez les jeunes.
Tout à fait.
C'est ça.
Après, on envoyait régulièrement le samedi après-midi.
Ouais.
Moi, c'est ma génération. Hein. Ouais. Et puis, d'un coup, ça a disparu et c'est le rugby.
Les matchs sur France 2, France 3 à l'époque.
Oui, bien sûr.
J'ai connu aussi.
Oui. Et pourtant, il y avait eu la médaille olympique en l'an 2000 à Sydney en plus. Hein.
Ouais, tout à fait.
Donc la com, elle a été.
Après, je pense que. Ils ont peut-être dû mettre alliés en fait les anciennes générations aussi. Par exemple, Dakoury, Mustapha Sonko aussi,
que je salue aussi
à Levallois, de Levallois, qui des icônes du basket français, des monuments. Et je pense que c'est important de les insérer là-dedans aussi pour que les futures générations puissent s'inspirer d'eux. Et je pense que ça va pouvoir avoir un impact en termes de communication pour la Fédération française de basket.
Tiens, je demandais à Benoît, t'aimes bien le basket, non? Tu t'y intéresses? NBA, tu vas me dire.
Dire clairement la NBA. Voilà,
c'est ça.
Mais aucun problème.
C'est révélateur.
Après, moi, c'est particulier parce que j'avais de la famille aux USA. Donc, du coup,
il paraît que c'est un super beau spectacle.
C'est magnifique.
Ah ouais, il paraît que
pour avoir fait des matchs NBA au Madison Square Garden dans une plus grande salle.
Je l'ai déjà fait aussi. Alors à Miami, c'était quelque chose.
Ah non,
non, Miami, c'est terrible aussi, ouais, c'est vrai.
Moi, c'est mon rêve justement de voir un match aux États-Unis à New York.
Faut y aller.
C'est assez incroyable, hein. La mise en scène, le show.
Ah non, c'est quelque chose.
C'est le jour et la nuit. On voit bien la culture française et américaine, ça n'a.
C'est l'Harlem Globetrotters, non? Non, beaucoup mieux, bien sûr. Parce qu'il y a quand même une compétition au bout, en plus. Il y a un match au bout.
Tout à fait.
Mais justement, avec l'Adidas Arena, qui est le nouveau temple du basketball, peut-être qu'on va aller vers encore plus de shows, peut-être qu'on a encore plus de moyens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais complètement, on tend clairement dans ça. Quand on voit l'investissement sur le plan sociétal et bien sûr l'investissement financier de la mairie de Paris par rapport à cette nouvelle salle, c'est clairement pas pour que ce soit une salle qui soit vide, c'est pour la remplir, c'est pour qu'il y ait du spectacle. Il y a des concerts, il y a des dates de concerts d'artistes très connus.
Ça fait 9000 en concert et 8000 pour le basket.
La configuration concert 9000, exactement. Ouais.
En plus, c'est à la chapelle, bien située aussi.
Ah oui,
bien
exactement.
Non, mais c'est un bel outil. Hein. C'est
un bel outil.
Pour le basket, ça va être génial. D'autant plus que c'est un sport quand même car. Il y a beaucoup de clubs quand même en Île-de-France.
Oui, il y en a énormément. C'est un grand vivier en Île-de-France.
Et puis à Paris, c'est quand même. C'est le basket, il y a pratiquement un club partout.
Ah non, clairement. Chaque quartier, chaque quartier, j'exagère, mais.
Oui, mais.
Dans Paris, on peut avoir des 2-3 clubs dans l'arrondissement.
Bah, déjà ici, là.
Le 13e, on est bien lotis. La Dorémy, le PUC, dont j'ai fait partie en Lille, justement. À Charletti. Donc, on est bien là-dessus en Île-de-France, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène un petit peu aussi bizarroïde, c'est le basket des rues. Est-ce que ça amène du monde?
Énormément de monde.
Oui, alors, parce que on pouvait jouer au basket et ne pas être licencié. On franchit quand même le cap.
Alors, ça dépend. J'ai parlé de mon époque. Notre époque un peu, même si Marianne est un peu plus jeune que moi, mais c'est relativement notre époque. Notre époque, et même, j'aimerais même encore plus loin, l'époque de Mustapha Sonko, qui est une légende de l'équipe de France et du basket français, c'est pas le meilleur exemple. Parce que lui, c'était particulier. Il allait au playground avec les copains, juste avant d'aller à l'entraînement. Et après l'entraînement, s'il avait un peu de temps... il retournait avec les copains pour jouer.
C'est
cette époque-là.
Oui.
Donc, pour ce qui est des playgrounds, ils ont été un peu désertés. Allez, on va dire dans les années 2000, 2010. On ne voyait plus trop de jeunes sur les playgrounds. Ils étaient surtout en club. Après ces années-là, 2010-2012, il y a eu un renouveau. Voilà, les jeunes ont commencé à... Moi, j'ai vu de plus en plus de jeunes aller sur les playgrounds, etc. Mais c'est quelque chose qu'on avait perdu.
Oui, c'est ça. Voilà. Grâce aux champions qui sont aux USA, sûrement, ça leur a donné l'envie de...
Alors, beaucoup. Il y a aussi eu des vagues. C'est-à-dire qu'il y a eu la vague de, d'un concept qui s'appelle N1. Voilà, donc c'est en gros, concrètement, c'est des Américains qui faisaient des tournées partout aux États-Unis et à travers le monde également. J'ai eu l'occasion d'aller voir des amis qui ont fait partie de leur tournée. Voilà. Donc il y a eu des vagues pour ce qui est du basket de rue. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est les années N1, c'est les années à peu près, voilà, hein, 2003-2005. Ça, c'était vraiment... Alors, en plus, ils avaient des styles vestimentaires particuliers,
oui, bah oui,
des bandanas,
ça en fait partie,
machin.
Ça joue, hein,
exactement,
ça joue. Hein, ça joue, hein.
C'est ça qu'on appelle le basket lifestyle. C'est-à-dire qu'il y a, avec le basket de rue, un style vestimentaire particulier, etc., où chacun veut se démarquer.
Est-ce que le 3-3, c'est pas un petit dérivé? Ça n'a pas emmené justement le basket 3-3?
Bah, le 3-3, en fait, ce qui est marrant, c'est que le 3-3 actuellement pratiqué, vient du streetball, donc vient du basket de rue. Le streetball, le basket
ça,
de rue.
C'est ça, oui, oui.
Ça vient de là.
Oui, oui.
Parce qu'à la base, quand vous pratiquiez du basket de rue, beaucoup de pratiquants sur les terrains faisaient du demi-terrain. Parce qu'il faut savoir que le 3 contre 3, c'est sur du demi-terrain et pas sur du tout-terrain. Okay. Et c'est ça qui a inspiré à amener les fédérations à créer des tournois 3 contre 3. Voilà. Et les Français, on a parmi les premiers, hein, à avoir fait des compétitions internationales. Je pense notamment à Christian Moulumba. Voilà. Sixke, qui était son surnom, qui est un ami, ancien joueur, qui a été jusqu'en National 1, donc jusqu'en pro, qui a été l'un des premiers à faire une compétition internationale. Voilà. Voilà, je pense notamment à mon ami Romain Voisé et Sylvain Cherléry, voilà, qui étaient des joueurs.
Avec des chances de médailles en plus au jeu.
Exactement.
Hein. Ouais, au jeu des chances de médailles. Alors,
pas à cette époque-là, mais voilà.
En plus, le basket, c'est le sport le plus titré au niveau des clubs. Hein. On parlait de Limoges, mais on a aussi Orthez, hein, et puis d'autres clubs.
Villeurbanne.
Y compris chez les femmes aussi, hein, Bourges.
Tout à fait.
Voilà. Bourges. Tiens, un autre exemple, Bourges, ville moyenne, pareil.
Exactement.
Voilà, pareil.
Chez les filles, c'est vrai qu'ils ont...
C'est le sport le plus titré. Puis c'est un sport très féminin, le basket. Hein. Ça plaît bien aux filles. Je crois que c'était un des sports qui était les plus pratiqués.
Tout à fait. Complètement.
Chez les filles de tout temps. Oui,
il y a une très belle génération. Une très belle nouvelle génération de jeunes joueuses. Non, vraiment. Et même sur les playgrounds, donc même sur les terrains de basket de rue, il y a un vrai engouement.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait, je pense, c'est que le basket, il offre, il met vraiment en avant des skills physiques, c'est-à-dire que si t'es grand ou si t'es grande, et notamment pour une fille, c'est pas toujours très bien vu d'être très grande,
c'est
et plus grande que des hommes.
Il y a une acceptation qui est différente.
Exactement, et du coup, c'est un angle d'être accepté comme on est finalement dans ce sport-là, où il y a effectivement cette particularité qui peut être un défaut, entre guillemets, dans la société par rapport à la vision qu'on peut avoir des hommes, etc., eh bien, devient finalement une qualité dans ce sport-là.
Et
c'est hyper intéressant de transformer ça.
C'est pas évident. Bon, Céline Dumère, elle n'est pas très grande.
Oui, non,
par contre, Yannick Souvray, elle est grande.
Ah oui, c'est sûr.
Mais après, voilà, c'est comme tout. Le sport, il reste ouvert à tous.
C'est bien.
Mais moi, j'ai une théorie aussi, parce que depuis tout à l'heure, on dit, voilà, les villes moyennes, finalement, elles se font remarquer par la qualité des sportifs.
Parce que Marseille, Bordeaux, Lyon, il n'y a pas de grosse équipe de basket, quoi.
Ouais. Et en fait, moi, ce que je remarque,
peut-être Lyon maintenant. Oui, mais au départ, ça part de Villeurbanne, hein, quand même.
Oui, oui, voilà.
Moi, ce que je remarque, en tant que coach professionnel, c'est, et je prends un angle un peu plus élargi que juste le sport, mais en tout cas, il y a vraiment un point important, c'est le mindset. Et c'est vraiment ce qui va jouer le plus dans ta capacité à réussir et à atteindre tes objectifs, à devenir le meilleur ou la meilleure, c'est le mindset. Et qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ma théorie, c'est que dans les régions moyennes, tu disais tout à l'heure... voilà, Limoges, c'est plutôt une ville ouvrière. Moi, je viens d'une ville à côté de Limoges, à côté de Châteauroux, une ville ouvrière.
Châteauroux.
Ouais, exactement. Et du coup, je connais.
C'est sympa, hein, Châteauroux, mais alors il n'y a plus rien.
Non, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement.
Et du basket encore là-bas.
C'est le mindset. C'est que l'éducation, vous êtes éduqué par des ouvriers. Et c'est pas du tout le même mindset que si vous êtes éduqué dans des grandes villes.
Pas du tout.
Et du coup, c'est ça qui forme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est là et on va aller jusqu'au bout et on va tout donner. Et c'est ce qui fait, à mon avis aussi, que dans les villes moyennes, on a peut-être des potentiels qui sont plus là parce qu'il y a l'humilité et il y a le mindset qui est là. Et c'est ce qui fait que ces villes-là, à mon avis, ressortent aujourd'hui. Bourges, Limoges,
Je suis très d'accord avec ça.
On voit dans le Nord, il y a beaucoup d'équipes de, de basket.
Ah, ça joue énormément dans le Nord.
Dans le Nord, tu peux faire un championnat de France.
Après, si on peut constater aussi un truc, c'est que moi, je sais que, par exemple, j'ai grandi dans le 93, et le basketball, ça permettait de se différencier des footballeurs.
Des footballeurs, exactement.
Parce que tu n'avais pas envie forcément d'être un footballeur.
D'accord,
Et il y en a beaucoup, en fait, on allait vers le basketball. Parce que justement, on était ok, on n'aime pas trop l'état d'esprit des footballeurs, etc. Ouais. On veut faire
pourtant,
un sport différent.
Dans le foot, ils aiment bien le basket. Et puis,
apparemment, mais en tout cas, nous, peut-être qu'à l'époque, les basketteurs, on les aimait pas trop.
Il y avait il y avait vraiment un truc un peu. Oh, les basketteurs, c'est des baltringues, ceux-là.
Et puis, à ce côté aussi, je pense que quand t'es jeune, tu trouves les États-Unis. On idéalise un peu les États-Unis. Forcément.
Oui,
et donc, du coup, voilà, quand tu dis ouais, non, le foot, c'est pas ouf, mais regardez les États-Unis, il y a tout ça. Donc, forcément, tu diriges vers le basket.
Les Américains, c'est pareil, on peut réussir en venant. Il fait un fond américain.
Oui, clairement,
le basket. Allez, on va marquer la pause musicale. Ensuite, on va rentrer sur le coaching, ça va être très intéressant. On enchaînera MMA et puis aussi donc sur le badminton, tout plein de choses.
Vous
raconter. Allez, code de play, Sky Full of Stars. Voilà, on y va.
I don't care, go on and tear me apart.
Allez, cette émission, je l'ai dit, hein, cette 80e émission, vous pourrez donc la réécouter très rapidement en podcast et puis toutes celles aussi des semaines et des années précédentes et puis y compris aussi le podcast basket. Hein.
Tout à fait, tout
hein,
à
Julien.
Fait.
Bon, alors basket, justement, Benoît, pendant la musique, tu faisais une remarque très juste.
Ouais, je posais la question, est-ce que le streetball, c'était pas un moyen en fait de se faire les crocs avant les entraînements?
Ah, complètement, ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes par exemple, l'exemple que j'ai pris de Moustapha Sonko, c'est clair. C'était plus que la passion. Le basket, c'était clairement sa vie. Voilà, il en a vécu. Voilà. Aujourd'hui, il a des centres de formation au Sénégal et il est entraîneur de l'équipe des jeunes de Levallois. Mais pour répondre à ta question, c'est clairement quelqu'un qui avait à cœur de travailler ses gammes avec les copains. Parce que il y avait cette liberté
d'expression,
exactement, Moriane, que tu n'as pas en club.
Oui, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu peux tester, c'est là que tu peux expérimenter, c'est là que tu peux rater sans problème. Personne ne va rien te dire, à part « ouais, t'aurais dû me faire la passe, etc. » Mais bon, c'est le streetball, voilà, le copain il va t'en vouloir un peu. Et prochainement, prochaine action, tu lui feras la passe. Mais voilà, c'est là où tu peux expérimenter vraiment, en fait, et tester tes gammes.
Et prendre des risques. Et
exactement.
Prendre des risques, expérimenter, faire des erreurs, c'est vraiment un passage essentiel pour pouvoir réussir, en fait.
Exactement. Voilà.
Et pour progresser. Si t'es en terrain et que t'oses pas, parce que t'as ton coach derrière et que t'oses pas, si t'oses pas, tu t'avanceras pas, en fait.
Exactement ça.
Ouais. Moi, je me souviens aussi qu'il y a beaucoup de gens de banlieue qui prenaient le train, le RER, pour aller à Paris et faire des streetball là-bas.
Ah, c'est bien, c'est l'idée bien.
Jusqu'aujourd'hui. Ah non, mais clairement. Jusqu'aujourd'hui.
D'ailleurs, en streetball, il y avait beaucoup de tournois. Moi, en tout cas, je sais qu'à l'époque de mes grands frères, il y avait le Sprite, je crois.
Un petit peu comme
que j'ai fait.
Voilà. Il y avait l'Adidas Streetball aussi. L'Adidas Arena, l'Adidas Streetball. Il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de tournois comme ça. Et aujourd'hui, ben, ça se perd, en fait.
Le Nike Camp.
Plus tout ça, en fait. Le Nike Camp.
Et pourquoi? Et pourquoi?
Bah, on ne sait pas, en fait.
C'est interdit dans les rues? Non.
Non, c'est pas interdit. Ah bon? Justement, on veut justement.
Oui, oui, oui. Oui. Ils sont tous partis dans les clubs ou tout ça? Non,
non, bah, peut-être,
non,
peut-être
non.
Plus assez de moyens financiers.
Il y a une perte d'intérêt. Mais il y a une perte d'intérêt au niveau des marques.
Ah oui, d'accord.
Faut savoir une chose, c'est que par exemple, le K54, qui est aujourd'hui le plus gros tournoi du monde, qui est sponsorisé par Jordan. C'est un besoin auquel a répondu mon copain Amadou Nsidibé, parce qu'à un moment, il a identifié un manque, à savoir, on vient d'une génération, bon, ils sont plus âgés que moi, lui et son associé, mais entre guillemets, je suis quand même plus ou moins de leur génération. Bref, on vient d'une génération où il y avait des tournois tout le temps. Voilà, le Sprite Tour dont parle Moriane, l'Adidas Streetball, le Nike Camp que j'ai fait, etc. Et à ce moment-là, les marques ne faisaient plus rien. Et à un moment donné, bah, Madoun, avec ses contacts, son réseau, a décidé de faire en sorte de monter un tournoi. Voilà. Au départ, avec des copains, un barbecue, un terrain, le long de la Seine, au quai 54 donc, de Levallois, raison pour laquelle il a ce nom. Et l'histoire a commencé à ce moment-là, en 2000, si je ne m'abuse, 2003.
D'accord.
Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on enchaîne un petit peu maintenant sur le basket lui-même, le basket de haut niveau. On gagne bien sa vie maintenant?
Alors, je ne peux pas
dire... Est-ce qu'un basketteur moyen gagne correctement sa vie?
Oui, oui, il gagne correctement sa vie. Après, voilà, les salaires sont très
variés. Parce que ça fait rêver les jeunes, il faut le dire aussi. Hein.
Ça, oui, oui, les salaires sont très, très variés. Ça va dépendre du statut de la personne.
Ça va dépendre du pays, de la France aussi.
Oui, oui.
De la France.
Non, mais aujourd'hui, un gars qui joue en Pro A, bon, il gagne correctement sa vie.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un joueur professionnel, lui. Il gagne sa vie. Il a son fixe tous les mois, il a sa voiture de fonction, il a son appartement.
Ah oui, même s'il n'est pas international.
Il gagne très bien sa vie.
Pour avoir un ordre d'idée, je pense qu'on est au niveau... On n'est pas loin de... Pour la moyenne, hein, je pense qu'on n'est pas loin du salaire de l'ingénieur.
D'accord.
En moyenne. Okay.
Ouais, voilà. D'accord, okay, donc,
après, tu peux avoir des 100 000 euros par mois, avec les Américains, voilà, comme partout.
Après, il y a vraiment une marge, une grosse marge.
Oui, non, mais comme... Bon.
Je vais vous donner des chiffres, si vous voulez des chiffres. Ça peut partir des jeunes joueurs, ça peut partir de 2000 euros, comme un joueur à côté de toi qui peut toucher 15 000 euros.
Bah oui, bah comme beaucoup de sports maintenant, voilà. Hein, de toute façon, hein, quel que soit le résultat.
Ah, il peut y avoir des gaps. T'es une marque qui te suit, voilà.
Oui,
ouais,
c'est ça.
Voilà.
Alors, pour parler un petit peu du coach mental hein, pour le basket, est-ce que le basketteur est. D'abord, est-ce que ce sont des. On en utilise beaucoup dans le monde du basket. Et est-ce que ce sont des sportifs difficiles à suivre et à gérer?
Alors, déjà.
Moi je sais.
Ouais. On utilise beaucoup. Oui, bien sûr.
Là. Oui, non, mais parce que bon, il y a des sports où on n'utilise pas encore de coach mentaux. Hein.
Moi je pense que c'est pas il y a des sports, c'est que c'est toute une question de culture.
Oui.
En France, c'est pas ancré dans les cultures.
Ah, oui, voilà, c'est pour ça.
C'est beaucoup dans les pays anglo-saxons. Mmh. Voilà, on voit beaucoup aux États-Unis. Mmh. C'est là-bas où c'est beaucoup plus on utilise beaucoup plus la préparation mentale. Moi-même, je suis coach en développement personnel avant tout.
Oui.
C'est important que voilà, je fais bien le discernement parce que quand je viens dans un club, notamment au Paris Levallois, dont j'ai fait des interventions, on m'a pris quand je suis arrivé, j'ai dit que j'étais coach en développement personnel. Ils m'ont dit mais attends, t'es l'entraîneur, t'es
ouais, c'est ça.
Donc
c'est
j'ai
ça.
Tout de suite mis. J'ai tout de suite
et dit, les clubs vous accueillent bien?
Oui, on accueille très très bien. Très bien.
Parce que vous n'êtes pas dans l'organigramme du club quand même. Alors,
on
n'est
pas,
pas
dans l'organigramme du club. Mais par contre, on est. Moi, en tout cas, moi, je suis intervenant. Parce que je préfère.
À la demande du club?
À la demande, c'est à ma demande en fait. Je suis le prestataire de service en fait. Oui. J'interviens dans le club pour pouvoir aider les jeunes, les athlètes dans le club. Mais ça me permet aussi d'avoir ma liberté en fait aussi en tant qu'intervenant. Parce que quand tu es dans un club, tu dois. Tu t'es amené aussi à aller en déplacement avec les joueurs, avec le staff. Ça prend beaucoup de temps.
Ouais. Ça oblige à suivre au quotidien aussi.
Au quotidien
même
aussi.
Même dans leur vie personnelle
Non.
Ah oui, parce que. Non, mais voilà. Non,
je suis pas leur parent en fait. Moi, je suis là justement
pour
les aider à optimiser leurs performances avec des objectifs bien
précis.
Oui,
mais enfin, optimiser les performances, c'est aussi se dégager de tout souci matériel ou psychologique éventuellement.
Oui, bien sûr. Voilà. Après, voilà, moi,
c'est n'avoir que le basket à penser.
Oui, bien.
Non, mais.
C'est ça. Mais en même temps, voilà, j'ai pas. Je dis bien, moi, je suis coach en développement personnel. Moi, mon but, c'est que les jeunes athlètes atteignent leur objectif. Je ne suis pas leur parent, je ne suis pas leur coach, qui que ce soit. Mais moi, je suis vraiment dans la prise de conscience.
Oui, mais on n'est pas le confident par moment.
Confident?
Oui.
On peut être aussi, bien sûr, on est dans la confidentialité.
Mais oui, fatalement, oui.
On est dans la confidentialité.
Bah oui, fatalement, à un moment, on déborde de...
C'est ça. On déborde, mais bon, après, voilà, il faut...
Garder
le cadre. Moi j'ai un cadre, j'ai une éthique aussi de travail aussi à respecter. Et tout ce que je dis avec les athlètes et les sportifs, c'est totalement confidentiel en fait. Je ne peux pas me permettre de sortir de mon cadre, aller raconter la vie des athlètes à n'importe
bien
qui.
Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des réussites? Est-ce qu'on se plante parfois?
C'est-à-dire on se plante?
C'est-à-dire que finalement l'athlète ne progresse pas et puis les résultats, il n'a toujours pas de résultats.
Alors moi jusqu'à présent... Dans ma méthode de travail, je dis pas ça parce que c'est moi. J'ai réussi tous mes objectifs par rapport aux athlètes, par rapport à leurs objectifs à eux.
D'accord.
Et honnêtement, quand tu travailles sur ta personne et surtout on t'aide, les personnes autour de toi sont dans l'écoute, c'est plus facile après d'avancer et c'est plus facile d'ouvrir des portes. Et de saisir les opportunités.
Et puis, est-ce que c'est plus facile de s'occuper d'un basketteur que d'un sportif qui pratique un sport individuel?
Non.
Pareil.
Non. C'est... Après, un sportif individuel, c'est pas les mêmes approches.
Quelqu'un qui est dans un sport collectif,
il n'a pas la même vision qu'un boxeur, par exemple.
Donc... Non, mais c'est intéressant.
Je suis archi d'accord là-dessus. Et moi, en fait, ce que je me demandais, en fait, le basket, c'est quand même un sport qui est assez complet. Il y a des phases, tout à l'heure, tu as parlé des phases d'ego. Moi, je sais, quand j'en faisais, par moments, quand je me trouvais en 1-1 face à un adversaire, c'était. Fallait que je le passe.
Benoît, t'as pas des phases d'ego, toi?
Non.
On t'imagine pas avoir des phases d'ego.
J'ai plus ce problème-là, on va dire. mais je l'ai eu à une époque.
Oh là.
Et je sais qu'en fait, il y a ce truc où. Ben, en fait, il y a aussi ce. côté, ok, on essaie d'agir pour l'équipe, de marquer des points pour l'équipe.
Ouais, c'est ça.
Mais
ouais.
À un moment donné, c'est presque aussi, on veut passer un message à l'adversaire, à une personne en particulier.
Exactement.
Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Donc, du coup, il y a des moments où c'est.
T'as cette phase
d'ego. Et il y a aussi des contacts physiques, on pense pas, mais le basket, c'est hyper physique.
Très physique. Mm-hmm.
Et donc, du coup, je me demandais, en fait, dans ce coaching-là, personnel, comment tu arrives justement à gérer l'aspect en mode, ok, il faut qu'il arrive à optimiser ses points sur l'aspect tactique, sur les performances, mais aussi sur l'aspect physique où il va devoir rentrer au contact vis-à-vis d'autres joueurs. Comment ça doit se passer dans sa tête?
D'accord. Alors, moi, déjà, je suis pas dans sa tête, pour commencer.
Okay.
Il est responsable de lui-même, il est autonome de lui-même. Moi, je l'aide justement à mettre en lumière ce qu'il ne voit pas en lui.
Okay.
C'est-à-dire, je ne vais pas le conseiller parce que voilà, mes conseils, ça sera mes propres conseils. Si lui, il va sur le terrain, je lui donne un conseil et il se plante. C'est moi-même qui prends les... On fait comment? Voilà. Donc, moi, je suis vraiment plus dans l'exploration, on va dire, du potentiel, dans le questionnement et pour que le sportif eh ben, puisse avoir plusieurs cordes à son arc et mettre en action ce qu'il dit à travers le processus de coaching qui dure voilà, entre 12 et 20 séances.
Okay.
Et avec chaque sportif, ce que je fais en amont, c'est qu'on définit un objectif.
Okay.
Je ne travaille pas sur, au hasard en disant voilà, on va faire la confiance en soi alors qu'au final, il veut juste optimiser sa performance sur le terrain, être par exemple le meilleur marqueur ou meilleur intercepteur ou X ou Y raison. Voilà, donc moi, mon but, c'est vraiment de l'aider à avoir plusieurs cordes à son arc et qu'il soit en alignement avec lui-même, avec ce qu'il veut lui-même faire, pas en ce que le coach veut faire.
Ok.
Alors, on va passer au MMA, mais juste avant de passer au MMA, est-ce que c'est plus dur de coacher un sportif que... Un salarié en entreprise.
Ah, ça, c'est vrai. C'est pas les mêmes approches.
Je connais un peu le problème.
C'est pas les mêmes méthodes parce qu'un sportif ne pense pas pareil qu'un dirigeant d'entreprise.
Eh oui.
Mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Ouais. Un dirigeant d'entreprise, eh ben, voilà, ça dépend déjà de son statut hiérarchique. S'il est manager ou quoi que ce soit, donc il doit fédérer, coordonner des équipes.
Bah, et même
etc.
truc, il doit arriver aux heures pareil. C'est comme arriver aux heures aux entraînements, tout ça.
C'est ça, c'est ça.
Ouais.
Donc du coup, non, c'est pas pareil. Une personne en MMA, de toute façon, déjà, on ne reçoit pas les mêmes coups aussi.
Oui, oui.
Il n'y a pas de coups.
Alors,
entreprise et dans MMA, voilà, il est confronté, il est livré à un sportif de MMA, il est livré à lui-même.
Bien sûr.
Il est face à lui-même. Et donc, du coup, c'est notre approche et c'est d'autres outils que j'emploie, notamment de la PNL pour les sportifs, de l'ancrage.
Okay.
Ils vont les préparer à faire face à l'adversité qu'ils ont eux et face à l'adversaire qu'ils vont confronter.
En tout cas, c'est bien, la transition, elle est faite parce qu'on a vécu une folle semaine, mais si vous êtes là pour nous en parler.
Exactement.
Bon, alors, Benoît, tu peux tout nous dire. Hein.
Ouf. Ouais. Quelle semaine, quelle semaine. Ça faisait plusieurs émissions que je t'en parlais. Je disais qu'on allait avoir trois beaux combats et franchement, on a eu des combats plutôt
expéditifs quand même. Hein.
Expéditifs, mais surtout surprenants en fait.
Oui.
Surprenants et ben du coup pour les téléspectateurs, pour ceux qui nous écoutent, pardon. Du coup, les combats qu'on a eu, on a eu le 7 mars, on a eu Baki contre Cédric Doumbé. Ensuite, on a eu Francis Ngannou contre Anthony Joshua et à la fin, on a fini par Poirier contre Benoît Saint-Denis.
Ouais. Alors, le premier combat.
Bah, du coup, moi, je préfère commencer par la fin.
Vas-y,
si tu veux.
Honnêtement,
je pense que je suis d'accord.
Alors, voilà, ça a plein de raisons qu'on va avoir des choses à dire.
D'accord. On a jusqu'à 20h. Après, il faut.
Pas de souci. On va essayer d'être concis, mais quand même, il va falloir parler un minimum.
C'est important.
Déjà, du coup, il y a eu le combat de Benoît Saint-Denis contre Poirier. Et malheureusement, notre soldat français a perdu.
Oui.
Perdu au deuxième round contre Poirier. Et du coup, par KO. Donc, du coup, c'est quand même une défaite assez difficile. Et il y a des éléments qui nous laissent à comprendre un peu le pourquoi de la défaite. Et Souleymane, qui, je pense, a fait à son analyse sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapidement?
Sachant qu'il s'est un peu expliqué.
Alors, exactement. Ouais.
Vraiment, pour être rapide et concis, si on suit le MMA, si on connaît le style de Poirier, si on connaît le style de BSD, en réalité, malgré ce que BSD nous a proposé au premier round, on pouvait savoir qui allait gagner.
Ah oui?
Ouais.
Oui, puisque Dustin Poirier est un très bon combattant en mi-distance.
En mi-distance, ouais.
Il a d'excellents coups de poing. Il fait excessivement mal. Et ça, BSD a réussi à le comprendre et à l'intégrer dans sa stratégie. On l'a vu tout le premier round où il a cassé complètement la mi-distance. Il essayait de garder Poirier face à lui en l'enchaînant de coups de genou. en essayant de le fatiguer au maximum, de l'épuiser comme il le pouvait. Ce qu'il a réussi à faire, malheureusement, ça n'a pas payé. Au deuxième round, BSD n'avait plus du tout de cardio, contrairement à Poirier qui, lui, a l'habitude. Il est rentré dans son style habituel, la bagarre. Il a oublié la stratégie.
C'est ça.
Et il a goûté du Poirier pur et dur, tout simplement.
D'accord. Okay.
J'aurais pas dit mieux. Clairement, c'est clairement une erreur de personnalité, je pense. Mais je pense qu'il va servir plus tard à Benoît Saint-Denis. Je pense que maintenant, il va comprendre que sa personnalité, il va falloir qu'il arrive à la canaliser pour justement éviter ce genre d'erreur clairement qui ne passe pas lorsqu'on rentre face au top 10 mondial, en fait.
C'est ça aussi
l'un des éléments. C'est que là, pour la première fois, il a affronté quelqu'un qui est dans le top 10 mondial. Et donc, du coup, voilà, là, ça ne rate pas. Donc du coup, là, il a eu son KO, mais je pense que pour l'avenir, on le reverra. Ah, c'est clair, je pense qu'on va le revoir, parce que clairement. C'est du spectacle à chaque fois qu'il nous offre. En plus, il met des KO, donc c'est tout ce que demande l'UFC. Donc c'est...
Les KO.
Donc c'est, ouais, donc, c'est parfait.
Ah, ouais. Non, vraiment, Benoît Saint-Denis, dans ses combats, est très spectaculaire, donc ça plaît à chaque fois. C'est ensanglanté, ça dure des fois plusieurs rounds. Donc oui, ça plaît, ça vend, c'est spectaculaire, c'est ce qu'on veut.
C'est ça. Et en parlant de KO, donc malheureusement, on va parler de notre cher Francis Ngannou.
Ah oui.
Passage au choix, qui malheureusement, du coup, a pris un KO au deuxième round.
Ah oui.
Bon, c'est triste. Je pense que ça fait mal à beaucoup de personnes. Je pense que tu en as pensé, Souleyman, mais de voir l'image de Ngannou par terre.
Sincèrement.
Le Camerounais que je suis a eu très mal.
Ça a été un week-end compliqué
pour les Camerounais.
On était tous Camerounais à ce moment-là.
Ça a été très dur. Maintenant, je suis beaucoup moins l'anglaise que le MMA, mais pour moi, Ngannou a rien à faire en anglaise.
C'est fini
rien.
Sa carrière en boxe anglaise?
Non, il commence sa carrière en boxe anglaise.
Il pourrait dire, c'est fini maintenant.
Non. Moi, je pense j'ai qu'il pris dira, KO, il dira c'est bon, pas, c'est
il,
fini.
Il n'avait pas été battu de beaucoup par Fury, hein, donc voilà.
Bien sûr.
Ça
bien
peut
sûr.
Peut-être lui donner une petite alerte en disant, bon, c'est peut-être fini, quoi.
Je pense pas, non, je pense non. pas, puisque la différence entre Tyson Fury et Joshua, c'est la façon dont ils ont traité leur adversaire.
Exactement. Tout à fait, exactement. Complètement.
Et surtout aussi, et je pense que je vais faire mal à beaucoup de fans de boxe, la différence des combats, c'est que face à Joshua, c'était un combat. Face à Fury, c'est un combat d'exhibition.
Exactement.
Il faut vraiment garder ça en tête, dans le sens
ça veut dire que c'était truqué pour avoir normalement.
Alors truqué, non,
pris à la légère, c'est pris à la légère.
Dans la définition, c'est un combat d'exhibition, c'est pour se montrer, pour faire le show, pour.
Il n'y a pas d'enjeu.
Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu gagner, ça aurait plu au public. Pardon.
D'accord.
Sachant qu'il faut rajouter quelque chose, c'est que c'était une période où Anthony Joshua, clairement, il acceptait tous les combats.
Ouais.
Il était passé par une période assez difficile, clairement. Il avait enchaîné les défaites et c'était des défaites clairement qui étaient un peu dues. Du coup, on parlait du mindset.
Exactement.
On voyait vraiment qu'il se dispersait, qu'il n'était plus aussi assidu au niveau des entraînements, etc. Et on a vu qu'il avait clairement décidé de se remettre en question. Même très très sévère envers lui-même. Et là, clairement, il avait accepté un combat contre Deontay Wilder, mais qui n'a pas pu se faire. Donc ça a dit clairement dans quel état d'esprit il était, c'est-à-dire de revenir et de tout gagner, en fait. Donc là, affronter un Anthony Joshua dans cet état d'esprit-là, lorsqu'on vient de commencer l'anglaise,
c'est clairement
une mission impossible presque.
Et franchement, il a tenté.
Ouais,
moi,
franchement, je rends hommage parce que le parcours il est incroyable de Francis Ngannou.
Incroyable.
D'avoir quand même tenu tête à Fury, ça c'est exceptionnel. Dans l'histoire d'une vie, c'est incroyable. Non, mais... Après, voilà, je pense qu'il faut quand même l'expérience, il faut quand même le bagage pour affronter un mec comme Anthony Joshua qui, clairement, il y a quelques années, était décrit comme le futur Mohamed Ali ou le voilà.
On parle du haut du tableau de la boxe anglaise.
C'est clairement ça. Et je peux vous dire que dans sa tête, Anthony Joshua, il le sait. Il le sait qu'il aurait pu être ce fameux Mohamed Ali. Donc là, il est un peu dans cet état d'esprit de revanche. Donc oui, aller l'affronter comme ça, c'est compliqué. Donc là, on a eu un combat où clairement, le résultat, le résultat attendu est tombé. La sentence, elle est tombée et elle est tombée au deuxième round. Donc ça a été pour...
Après plusieurs takedowns de Joshua dans le premier round, ça aurait pu se finir dès le premier round. Ouais. C'est-à-dire que...
Mais vous avez vu sa posture aussi à Joshua? Comment il était serein, calme.
Ah mais justement, on parlait de mindset, et
il était totalement confiant en fond, ça se voit directement.
Il est rentré dans le ring, je dirais pas que c'est de l'arrogance ou de l'orgueil, mais il savait qu'il avait gagné.
Bien sûr.
Il
bien
y croyait.
Je l'ai vu.
Il se voyait déjà.
Ça, c'est le rôle du coach mental, de les mettre dans les meilleures dispositions.
C'est la visualisation. Ils se voyaient déjà gagnés.
C'est clair. C'est clair, c'est clair. Du coup, c'était notre premier Camerounais à avoir perdu. Et
chronologiquement, le deuxième.
C'est ça. C'est vrai.
Pour notre chronique, le premier.
Et du coup, le main event de l'année, j'ai envie de dire, en France, qu'on attendait. Baki contre Cédric Doumbé avec un résultat, j'ai envie de dire.
Qui en a déçu plus d'un. C'est moi le premier.
C'est clair. C'est
vraiment moi le premier, puisque étant jeune, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, comme vous vous en doutez. Et Baki contre Doumbé était l'un des premiers combats à se faire que les gens voulaient, que les gens attendaient.
C'est ça.
C'est la première fois qu'on a le droit à un combat que le peuple a réclamé, en fait.
Et vraiment.
Du fin fond de ses tripes.
Et sur la carte, normalement, le résultat qu'on attendait, enfin, pour beaucoup de monde, je pense qu'on attendait Doumbé, au regard de son expérience et des années qu'il a eues dans le Glory, etc. Donc, c'est l'un des plus grands champions du Glory, d'ailleurs. Donc, c'est normal. Et là, de se dire que le combat s'arrête à cause d'une épine dans le pied, entre guillemets.
À cause d'une décision arbitrale.
Arbitrale, clairement. Et en réalité, c'est plutôt ça la problématique.
Qu'est-ce que vous aurez fait justement par rapport à la décision de l'arbitre?
Vous auriez fait quoi si
tu étais arbitre?
Le truc, c'est que ça dépend beaucoup des arbitres. En fait, j'écoutais beaucoup d'interventions à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres qui vont toujours, ils ont la règle, ils ont leur manuel de règles sous les yeux et ils disent « Ok, je vais l'adapter au contexte. » Là, on a un combattant qui nous demande quelque chose, qui nous fait signaler. Donc, tu peux aller vérifier ce qui se passe. Parce que plein de fois dans le MMA, notamment à l'UFC, on a ce qu'on appelle des eye pokes, c'est-à-dire un doigt dans l'œil, où on a un orteil qui se casse, mais personne ne remarque.
Et genre John Jones, quand il a défendu son titre.
Sachant que c'est à la fin, il faut rappeler qu'il y a plein de combats de John Jones où l'arbitre lui dit « Ah non mec, là, ton orteil ne va pas bien. » Soit on arrête, soit on trouve une solution. Et du coup, ils trouvent des solutions, ils mettent du sparadrap, des trucs comme ça pour tenir les orteils. Donc ça arrive. Il y a des fois où tu peux stopper le combat. Là, on a eu un cas de figure où l'arbitre, il a été d'une sévérité.
On peut le dire.
On peut comprendre, je pense, l'arbitre, dans le sens où tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas la blessure, tu ne sais pas ce qu'il y a. Donc tu te dis, tu dois dire au combattant de continuer le combat, parce que c'est la règle. Mais au quotidien, on a des contre-exemples qui montrent qu'il y a la règle, mais il y a le contexte dans lequel la règle, on peut l'appliquer. Mmh. Et là, je pense qu'en l'occurrence, l'arbitre, il aurait dû quand même demander ce qui se passe.
Prendre le checker, surtout.
Prendre le temps, checker, regarder.
C'est ça, checker, et là, il n'y a pas du tout eu ça. Il y a une décision vraiment qui est arrivée de manière arbitraire. Ok, certes, elle respecte le manuel, entre guillemets.
Alors, justement, pas pour moi.
Ok.
Et c'est là que je vais être mauvais joueur. Hein, je le dis clairement, c'est le moment où je vais insulter l'arbitre.
Allons-y.
C'est le moment où.
Lâche-toi. Lâche-toi. Ça aussi, c'est dans le mindset. La frustration de tout lâcher. Lâche-prise.
Non, non. Je vais rester poli. Mais il faut savoir que c'est un arbitre qui, malheureusement, est connu pour ses décisions et pour ses laisser-aller. Catastrophique, puisqu'il a arbitré justement avant le PFL en UFC, et il y a un combat très connu de sa part dont j'ai oublié les combattants malheureusement, mais on a une séquence où il laisse pendant 10 secondes un combattant sur le dessus d'un autre mettre des coups illégaux. Mais quand je vous dis illégaux, c'est-à-dire arrière de la tête et en dessous de l'oreille, ce qui est encore complètement interdit.
C'est compliqué ça.
Donc,
excuse-moi de te couper, mais qu'en fait, il est très proche de notamment l'un des directeurs qui a fait les règles du MMA.
D'accord.
En général, donc du coup, je pense que si ça joue, le fait qu'il soit proche de certaines têtes dans le monde du MMA.
Donc le statut a fait qu'il a pu transitionner de l'UFC au PFL. Maintenant, le règlement, qu'est-ce qu'il dit? Le règlement stipule très clairement que l'organisation doit mettre en sécurité tous ses combattants. Malheureusement, le PFL a eu une organisation catastrophique. C'est-à-dire que, premièrement, on a eu une carte de combat qui n'avait absolument rien à voir. Des combattants qui s'affrontaient qui n'avaient pas du tout le même niveau. On avait des écarts monstrueux. Donc, beaucoup de combats qui se sont finis
par des
premier round, KO au bout de 10 secondes. Et je pense que vous avez tous le même KO en tête que moi.
Oui.
Et entre chaque combat, on avait le droit à des personnes en costume et en chaussures de ville, ou en tout cas chaussures extérieures, qui se permettaient de rentrer dans cage et de prendre des photos.
Selfie, ouais.
Donc,
au PFL.
Au PFL, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'entre les combats, sachant que quand on voit à l'UFC, il y a toujours des sessions de nettoyage, etc. Et là, vous imaginez, vous avez un combattant qui va arriver dans même pas 2 minutes. Bah, t'as Tony Parker qui est sur le ring, qui est en train de faire un interview.
Je crois qu'en plus, j'ai vu ouais, cette image passer.
C'est ça, et c'est scandaleux.
Non, non, mais
c'était scandaleux. Et après aussi, le parti pris de l'une des présentatrices, parce qu'en fait, le problème, c'est que le PFL n'a pas engagé du coup, des présentateurs français ou qui parlent français. Donc du coup, ce qu'on s'est retrouvé du coup, avec une traductrice qui traduisait à moitié. Il faut savoir que moi, j'ai été à la conférence de presse juste avant le combat.
D'accord.
C'est bien.
Donc,
c'est
du coup,
bien.
J'ai pu assister, j'ai fait partie des tirés, des gens qui ont pu être tirés au sort et assister à la conférence de presse. Et ce qu'on a vu, c'est que clairement, elle traduisait à moitié les discours des combattants. Et du coup, en termes de divertissement, ça ne rendait pas. Et on voyait bien que l'organisateur anglo-saxon, lui, qui ne comprenait pas, qui disait « Ah ok, il a juste dit ça, bon, ok, on passe à autre chose. » Et ça s'est ressenti pendant la conférence de presse. Pendant également l'événement, puisque clairement elle s'est permis de créer un Baki t'es mort, alors qu'elle est censée être neutre. Donc du coup il y a ça. En fait tous ces éléments
moyen,
qui
ouais,
c'est clairement moyen. Bien. Et tous ces éléments qui s'additionnent, c'est-à-dire qui s'additionnent, etc. Donc on se dit ouais, à la fin avec une épine dans le pied, ouais clairement ça, c'est possible. Et c'est clairement frustrant pour le public.
Quoi. Non clairement. Ouais. Ah non mais là... Ouais, ça fait beaucoup hein, quand même.
Ouais. C'est énorme et du coup toute cette frustration nous empêche de parler du combat.
D'accord. Ok. Bah merci en tout cas. Hein. Puis vous venez en reparler quand vous voulez de yes. MMA le mois prochain. Mais ouais, c'est dommage. Trois combats expéditifs. Mais enfin c'est comme ça. Allez, la musique. Ensuite on va parler badminton et foot. Donc Dizzy la peste. Donc tes rêves, c'est ça. La deuxième pause musicale.
Alors mon petit. Tu veux faire quoi plus tard?
Je voudrais faire funambule.
Ah, c'est bien ça.
On me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais c'est ça. Dans tes rêves, on me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais c'est ça. Dans tes rêves, on a tous un rêve sacré dans son jardin secret, tous un désir concret, tous un monde que l'on s'est créé. Beaucoup veulent être une star, moi je voulais être une comète et je me suis fais une promesse, fais-toi connaître, mais reste honnête. Mais par lassitude, un jour j'ai lâché mes études. J'avais pas thune et j'ai quitté ma banlieue sud. Je venais de banlieue, j'étais bronzé, donc c'était pas gagné. En plus je suis fils de personne, donc il fallait batailler. Et puis après j'ai grandi, j'étais en paix comme Gandhi. Plus candide que bandit, j'aimais le mercredi. J'étais dans le train pour Paris, je rêvais à travers la vitre. On me voyait comme un petit, mais je voulais conquérir le titre. On me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais c'est ça. Dans tes rêves, on me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais c'est ça. Dans tes rêves, et c'est D.I. S-I-I-Z-Z-Z, un rap imagé au million de pixels. La limite c'est le ciel, tu sais de qui c'est. Je kiffe être artiste et mon rêve je l'ai tissé. Enfant métissé, petit, cheveux frisés. D'ici c'est sérine, j'avais ce rêve dans ma visée. Des visions, des visages, de gens s'amusant. Des présages d'anges me disant t'auras ton rêve dans 10 ans. Aujourd'hui je me dis peu importe ce qu'on me dit. J'ai pris le train des rêves et c'est un ange qui le conduit. Et je rêve à travers la vitre quand j'écris ce titre. Quand j'étais petit ce que je voulais c'était être artiste. Je vais être artiste. Je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait. Dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais c'est ça. Dans tes rêves, on me disait. Dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait. Dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais c'est ça. Dans tes rêves. Ne laisse jamais les autres t'écarter de ta route. Et si tu t'envoles vers tes rêves, tu peux te cacher dans la soupe. Ne laisse jamais les autres te faire la place au doute. Et quand tombera la pluie des rêves, profites-en au goutte à goutte. Dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait. Dans tes rêves, je veux être artiste. Je vais être artiste. Tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais, c'est ça. Dans tes rêves, on me disait. Dans tes rêves, je veux être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Dans tes rêves, on me disait. Dans tes rêves, je veux être artiste. Dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves. Ouais, c'est ça. Dans tes rêves, dans tes rêves, dans tes rêves, dans tes rêves, dans tes rêves.
Allez, on va maintenant, comme promis, parler de badminton dans cette émission bien riche ce soir. Vanessa, donc, on va revenir un petit peu sur cette semaine des internationaux de badminton qui se sont déroulés donc à l'Adidas Arena, donc le tout nouveau gymnase de Paris.
Voilà, c'était la première fois que ces internationaux se déroulaient à l'Adidas Arena à La Chapelle, puisque l'Adidas a été inaugurée tout récemment.
Oui, j'y étais.
Voilà, ça a été vraiment un beau rendez-vous. Beaucoup de mordus de badminton qui ont répondu présent. Mmh. Et puis aussi, ça a attiré d'autres spectateurs qui ont pu découvrir. Faut rappeler que ce tournoi fait partie des 30 étapes dont, et cette année, ça va compter pour la qualification olympique. On aura le premier résultat le 30 avril et on aura les noms le 15 mai prochain. Il y a 5 catégories, le double messieurs, le double mixte, le double dame, le simple monsieur et le simple dame. Donc on va voir un petit peu les résultats qu'on a eus. Mmh. C'est plutôt satisfaisant dans l'ensemble, honnêtement, parce que dès l'entrée, dès les 16e, on avait des Français qui étaient confrontés à des têtes de série mondiales. Donc, il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis, on a quand même notre paire double mixte, Tom Jiquel et Delphine Delru, qui ont été jusqu'en quart de finale. Donc, première journée, 16e de finale, il y a Thomas Junior Popov qui était confronté au Singapourien Lo Kin Yu. Et il s'est incliné en 2-7. Premier set un peu compliqué et deuxième set où c'était beaucoup plus serré, 21-23. Pour son frère qui jouait le lendemain, Christo Popov, il est tombé face au numéro 2 mondial, le chinois Xi. Un beau match quand même aussi, 14-21, 15-21. Bon, il fait face au numéro 2. Et ce Chinois, d'ailleurs, il a remporté la finale, il a remporté ses internationaux, il a battu tous ses adversaires et il a battu hier le Malaisien Kunlavut Vititsarn. Après, on a une deuxième paire en double messieurs, Lucas Corvée, Ronan Labarre. Ils vont jusqu'en huitième, ils gagnent leur premier match face à des Indonésiens qui les avaient battus précédemment. Et puis, il s'incline face au Danois, Astrup Rasmussen. Après, oui. Les frères Popov ont aussi joué. Il faut savoir que sur la deuxième journée, Christo Popov jouait le matin. Et puis, il a joué également l'après-midi en double avec son frère. Oui. Ils sont inclinés face aux Chinois Ren, qui ont eu un jeu quand même très agressif. Voilà, donc c'est 2-7, 21-11, 22-20 pour les Chinois. Après, on sait qu'ils disputeront cette semaine le All England. Et en double dame, les Français se sont aussi inclinés en 16e de finale. Margot Lambert donc, et Anne Tran face aux Japonaises, qui ont d'ailleurs remporté la compétition. Les Japonaises Shida...
Ouais. C'est difficile à dire en japonais.
Oui, excusez-moi.
Hein. Ouais. C'est difficile à dire.
Les japonaises Matsuyama et Shida, excusez-moi.
Ouais.
Voilà.
Mm-hmm. Ok. Donc, dans l'ensemble, c'est un bilan qui est satisfaisant.
Oui, juste un petit mot quand même sur Delphine Delru et Tom Jiquel, les 13e mondiaux. Ils ont été jusqu'en quart. Donc, c'est un beau résultat.
D'accord. Voilà. Okay. Alors, je sais que tu as ramené tout plein d'interviews. On les écoutera à partir de la semaine prochaine. Hein. Mais bon, est-ce que le bilan est satisfaisant? Est-ce que le président était content? Celui qu'on a eu la semaine dernière au téléphone, le président de la Fédé.
Oui, tout à fait. Il est satisfait. Il a dit qu'il y avait des choses qui auraient pu être un peu mieux. Mais franchement, vu les configurations qu'on a eues, satisfait aussi sur le nombre de spectateurs, sur l'ambiance. Les joueurs aussi étaient satisfaits de cette Adidas Arena, du nombre de médias présents, puisque pour eux c'est aussi une belle lumière pour ce sport d'être dans les
Adidas Arena. J'en ai vu des images un petit peu partout, sur tous les médias. Ouais.
Voilà, il y avait beaucoup d'affichages dans Paris, honnêtement, on ne pouvait pas passer à côté, donc un bel international de
France. Bah, voilà. C'est bien, on y reviendra la semaine prochaine, plus en détail, avec toutes ces interviews. J'accueille mon ami Stéphane, on l'entend partout, il est chez l'ami Vendroux. Le vendredi soir, les légendes du sport sur Europe 1. Là, il est chaque semaine sur mon Paris FM. En plus, c'est normal, on a passé une telle semaine au foot. 3 clubs français donc, qui vont probablement jouer les quarts de finale. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir, ça va Philippe, bonsoir à vous.
Ouais.
Bonsoir,
Stéphane. Bon, c'est bonsoir, bien, Stéphane. en studio comme ça. Ouais, bah oui, les studios, ouais, ils n'adorent pas à mon Paris FM. Alors, c'est vrai que ça va faire 20 ans qu'on a... On n'avait pas eu trois clubs français en Coupe d'Europe. On peut dire que, bon, Marseille qui a battu donc, l'équipe de Villarreal 4-0, sauf accident, Marseille jouera les quarts de finale. Lille qui va gagner à Grasse, donc 3-0 aussi. Et puis le Paris Saint-Germain, on l'avait dit, hein, même un Paris Saint-Germain moyen, ça sera imposé. Paris, donc Saint-Germain, a battu la Real Sociedad 2-1. Ils avaient fait un match moyen à l'aller en gagnant 2-0. Là, c'est un match complètement abouti et accompli. Ah ouais.
Disons que sur 4 mi-temps, ils en ont fait 3 complètement aboutis, ouais, 3 ouais, belles. Et ouais, puis, il y en a une de ratée.
Le score était acquis.
Non, mais il y a mi-temps de ratée, il faut le dire. Quoi. Donc maintenant, ils sont en quart de finale. Mm-hmm. Et pour les deux autres clubs, c'est vrai que... Oui. Et alors, ce qui est, vous disiez, il y a 20 ans que...
Oui,
c'était il y a 20 ans, 2004. Oui. Et,
4 clubs. Hein,
et même 4.
Oui.
Parce qu'en tout cas, c'est l'année où
Marseille,
2004, Marseille a été en finale de la Ligue Euro, C3, la Coupe de l'UEFA à l'époque, perdue face à Valence. Monaco a été en finale de la Ligue des Champions.
Contre Porto, il y avait Lyon en quart et Bordeaux en quart.
Qui a perdu...
Lyon
a perdu en quart de finale.
Ouais, et Bordeaux aussi contre Porto. En UEFA. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est bon signe. Ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir. Parce que c'est vrai qu'on peut penser, bon, il y a quand même des gros adversaires pour, dans le groupe, dans la Ligue Europa pour Marseille. Il y aura de gros adversaires.
On verra ça.
Le Paris Saint-Germain, il y a des gros adversaires. Oui. Faudrait quand même peut-être. Quoi, je pense au moins 3 ou 4 largement supérieurs au Paris Saint-Germain, donc ça faudra vraiment faire des exploits. Par contre, Lille, il y a aussi des adversaires solides, même en Ligue Europa Conférence, mais bon, Lille c'est tout à fait jouable.
Alors justement, ceux qui se sont aussi qualifiés comme le Paris Saint-Germain, il y a le Real Madrid, hein, malgré son match nul à domicile, un partout, le Real a gagné 1-0, donc à Leipzig, alors on aura l'occasion de disserquer sur les erreurs d'arbitrage. Mais enfin, c'est fréquent. Hein. Les puissants, ils sont toujours avantagés. C'est bien clair. Connu. Voilà. Ouais. Donc, Manchester City, qui avait gagné 3-1 devant Copenhague, ils ont aussi gagné le match retour 3-1. Donc, eux sont qualifiés comme le Real en quart de finale. Et puis, troisième équipe, c'est le Bayern de Munich, qui avait été battu par la Lazio de Rome 1-0 et qui, grâce à un grand Ken, a renversé la situation 3-0.
Tout à fait, ouais. Un grand Ken et puis aussi un grand Bayern de Munich. Ouais. Et ce qui est d'ailleurs assez incroyable, que soulignent d'ailleurs les médias aussi en Allemagne, c'est que depuis qu'ils ont officialisé quasiment le départ de Tuchel, quoi. Ben oui, ils ont officialisé le départ de Tuchel à la fin de la saison.
Ça va mieux.
Ça va, c'est vrai que ça va mieux. Je pense que de toute façon, c'était certainement une bonne chose. Parce que comme ça, il est peut-être plus libéré par rapport au management de certains joueurs où c'était un peu compliqué. Je pense à Kimmich, par exemple, qui ne veut pas jouer arrière droit, qui préfère jouer au milieu ou d'autres comme ça. Et puis, il faut faire attention parce qu'on a peut-être un peu écarté le Bayern. Il ne faut pas oublier que Tuchel, il a quand même gagné déjà aussi une fois la Ligue des Champions avec Chelsea. Il a été en finale avec le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est... Quoi, moi, je l'ai mis toujours dans le top... au minimum le top 10, top 5 des coachs en Europe. Donc, sauf qu'il a aussi des problèmes des fois de communication avec ses... Parce qu'au Bayern, on ne se fait pas écarter parce qu'on a des mauvais résultats. On se fait surtout écarter parce qu'on a des problèmes avec la direction, enfin, surtout en plus des mauvais résultats.
Le club est plus important que le joueur. Voilà, c'est la différence, comme tous les grands clubs.
Et donc,
il faut quand même
faire attention parce que ce club, il va revenir petit à petit. Alors, la question, pour l'instant, en attendant les autres matchs, la question, c'est quand même le Real Madrid, parce que le Real Madrid fait quand même deux matchs. Alors, on va pas revenir sur les erreurs d'arbitrage, il y en a tout le temps et tout, mais sur le plan du foot proprement parlé, il devrait
mais ça leur est arrivé
de
gagner des Coupes d'Europe comme ça. Hein.
Voilà, ouais, tout à fait.
Il y a deux ans, ils sont pas... Ouais, puis
ils étaient surtout mauvais d'habitude. Ils avaient plus l'habitude d'être très mauvais de ne pas être bon en phase de poule. Puis trois mois après, je me rappelle l'année où le Paris Saint-Germain les a rencontrés. Ouais. Trois mois après, c'était une équipe complètement différente.
Complètement métamorphosée.
Je crois que c'était Zidane d'ailleurs qui était arrivé entre-temps qu'ils avaient changé d'entraîneur. Donc voilà, maintenant effectivement, ils peuvent très bien. Maintenant, bon, il n'y a plus Karim Benzema et puis même si Vinicius était un très grand joueur, il y a peut-être besoin de un peu plus de l'équipe et tout. Donc moi, je les ai quand même un petit peu rétrogradé à mon rang des favoris pour la Ligue des Champions.
Allez, on passe au championnat, 25e journée, il reste 9 journées. Bon, n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Montpellier est allé gagner une nouvelle fois à Nice 2-1, donc ça confirme le déclin de Nice. Lyon qui continue sur sa bonne lancée, qui va gagner à Lorient 2-0. Victoire de Lens, ça c'était le match de la soirée. Hein. Lens qui bat Brest 1-0. PSG Reims 2-2, bon, bah, je pense que Paris tombe dans une certaine facilité. Maintenant le titre, il est pratiquement acquis. Victoire de Monaco à Strasbourg 1-0. Le Havre qui bat Toulouse 1-0, ça c'est important pour Le Havre. Metz aussi qui bat Clermont, qui croit à nouveau. Victoire devant Clermont 1-0. Nul entre Lille et Rennes 2-2. Et puis Marseille qui continue sur sa bonne lancée 2-0 devant Nantes. Donc le PSG en tête 56 points. Devant Brest, deuxième 46. Troisième Monaco 45. Quatrième Lille et Lens 42. Et sixième Nice 40. Et septième donc Marseille 39. On voit qu'il y a 3 points d'écart seulement hein, pour, entre le 4e et puis le 7e. Hein. Donc, comme on dit, Stéphane, il n'y a rien qui change. Ouais, c'est toujours aussi serré puis compact. Il doit y avoir
5 ou 6 équipes. Donc, ça veut dire que c'est, finalement, quand on regarde pour une équipe comme Marseille, ça rend. Bon, il y a beaucoup de positifs, mais quelque part, ça rend aussi le combat encore un peu plus rude. Parce que quand vous avez 5, 6 équipes, quand tu te bats contre une seule équipe, tu peux compter sur une défaillance, être meilleur et tout. Mais là, là c'est compliqué. Et puis pour l'Olympique de Marseille, on va certainement en savoir beaucoup plus. Parce que les 4 prochains matchs de Marseille, c'est tout simplement incroyable. Quoi. Je crois qu'ils vont à Rennes, ils reçoivent le Paris Saint-Germain, ils vont à Lille. Et après, ils reçoivent Nice, je crois.
Ouais, je crois que c'est le week-end de Pâques, le match du
PSG. C'est le 31 mars.
C'est le week-end de Pâques.
Les œufs vont tomber.
Ouais, donc, c'est là qu'on va savoir. Parce que bon, après, bon, maintenant aussi, c'est trop facile de dire c'est tes adversaires pas forts et tout. C'est trop facile de dire ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, en Ligue 1, c'est 3 relégables, quoi, en puissance.
Justement, pour les relégables, Le Havre est 12e avec 27 points, 13e Montpellier-Strasbourg 26 points, 15e Lorient et Nantes 25, donc on voit que c'est très serré, très très compact, et même Metz peut à nouveau y croire, 17e avec 23 points, il y a Clermont qui semble condamné, donc 18e avec 17 points.
Ouais, tout à fait, je sais pas, Clermont ils ont l'air un peu, je me demande s'ils n'ont pas l'air un peu résignés, ils ont mis un adjoint, ou je ne sais même pas si ça a été officialisé ça pour Pascal Gaspien qui doit arriver, ils font rien, j'ai l'impression qu'ils sont complètement résignés, parce que ça c'était un peu le match, entre guillemets, un peu le match de la dernière chance. Je crois que Metz... je ne sais pas combien de matchs ils ont gagné à domicile Metz cette saison, mais c'est peut-être le deuxième.
Ils sont plus qu'à 4 points du Havre maintenant.
Ouais, mais Metz, c'est peut-être leur deuxième victoire à domicile de la saison, je crois. Je réfléchis avant de ne pas dire que c'est la première, quoi. Donc c'est
ça doit être dur mentalement.
Ça doit être dur.
Donc c'est très très dur. Et c'était l'occasion, quoi, d'aller faire un résultat sur l'équipe qui est friable chez elle, et puis d'aller faire un résultat. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire, donc ça va être très, très, très compliqué. Quoi.
Allez, la 28e journée en Ligue 2. Alors là, Saint-Etienne, ils ont été bien meilleurs que ce qu'on a vu à Charletti. Ils ont battu Auxerre 1-0, parce que c'est vrai qu'on était à Charletti le week-end d'avant. Ce n'était pas un match très spectaculaire. C'est moins qu'on puisse dire, 1-0-0. Mais enfin bon, il y avait des circonstances atténuantes avec le mauvais temps. La preuve, c'est que même le Paris FC est allé gagner à Caen 1-0, alors que Angers a fait match nul à Valenciennes 0-0. Les autres résultats importants, Amiens, Rodez 1 partout, victoire d'Annecy donc à Ajaccio 3-1. Dans le derby breton, eh bien, c'est Guingamp qui s'impose 3-2 à Concarneau. Et ce soir, il y a Grenoble-Laval à 20h45. Là aussi, ça sert serré un peu en Ligue 2. Auxerre en tête avec 52 points, devant Angers deuxième 50. Troisième Saint-Etienne et Laval 45, cinquième Caen 40, et en bas de tableau c'est aussi très serré, 14e 3 Dunkerque avec 34 points, ensuite 16e Bastia Concarneau 33 points, 18e Rouen et Annecy 27 points, et 20e et dernier c'est Valenciennes qui est condamné avec 17 points.
Vous n'avez pas dit dans les résultats effectivement, mais on le voit dans le classement, Dunkerque par exemple, il y avait un match très très important aussi pour le maintien, Dunkerque-Pau. Dunkerque l'a remporté. Dunkerque, ils font une sacrée.
Ils sont 14e.
Ils font une sacrée remontada. Et moi, je les ai vus jouer Dunkerque, notamment quand ils ont été à Rodez. Ils ont fait un match nul contre Rodez. C'est une équipe qui s'est renforcée, je crois, dans ses structures, dans son coaching, dans son équipe d'entraîneurs, et qui, franchement, fait en tout cas ce qu'il faut pour l'instant pour arriver à s'en sortir, quoi.
Mais là aussi, c'est serré hein, pour la descente, comme pour la Ligue 1.
Super serré.
Sauf Valenciennes qui est condamné comme
Clermont. Il y avait une étude avant, la dernière journée, il y avait une étude d'Opta qui disait qu'il y avait 10 équipes jusqu'au 10e de Ligue 2, il y avait 10% de chances de participer au barrage, quoi, de monter, quoi, par intermédiaire des barrages, bien sûr, pour pour certains. Donc c'est vrai que c'est et il y en a peut-être plus ou moins là, je sais pas s'ils faisaient l'étude maintenant. Ce qui est dommage, on peut signaler pour la Ligue 2, c'est Bordeaux qui a encore raté une occasion, ouais. qui avait fait un match nul un peu miraculeux à...
Ils vont finir en milieu de tableau.
Bah oui, mais ouais. c'est dommage quand même, parce qu'ils avaient fait un match nul miraculeux quand même à Rodez, hein, en étant quasiment inexistant la deuxième mi-temps et en marquant à la 93e un but extraordinaire, magnifique but. Et puis là, ils avaient l'occasion, ils recevaient le QRM, qui doit être 17e ou 18e, je ne sais pas, et ils n'ont pas réussi à les battre. Quoi. Bah, donc, et puis en les battant, ils revenaient à 3 points de la 5e place.
Bah, ouais, comme quoi ça.
Donc c'est un peu. C'est vraiment passé à côté de l'occasion.
Allez, en national, tiens, ça fera plaisir à Astrid. 0-0, Châteauroux. Oh, quand face au Restart.
voilà. Alors la Berrichonne.
ouais. Et puis donc Versailles, Nancy, un partout. Donc le Restart en tête avec 51 points. Devant New York, deuxième 44 et troisième Marty 43. Bon, bah tout va bien pour le Restart. Hein. On, dit, ouais, ouais. on le répète tout va bien, puis chaque
Versailles
semaine.
Versailles va pas trop mal non plus.
Oui, oui, Versailles, oui. Versailles
au milieu de tableau. On en avait parlé de l'arrivée de Jean-Luc Vasseur il y a, oui.
il
y a maintenant.
Ils sont
11e de
Versailles.
Je crois qu'ils perdent plus. Je ne sais pas s'ils ont perdu un match depuis les trois derniers, là, depuis qu'il est arrivé. Qu'il est arrivé, donc voilà. Bah bon,
ils sont 11e avec Villefranche en Beaujolais, 29 points.
4 défenses, 4 descentes, et puis ils ne doivent pas être très loin du.
Non, non. Mais pour l'instant, ils se maintiennent.
Donc c'est super chaud.
Ouais. Et c'est Cholet qui ferme la marche avec 18 points. Tiens, le Paris Atlético a gagné. Paris Atlético donc, a battu La Roche-sur-Yon 2-0. Donc bah, ils peuvent monter, ils sont 2e avec 30 points, à 2 points. Du premier Libourne, 32 points.
Ça fait plaisir.
Hein
ouais. Pour une équipe parisienne qui fait
ouais, c'est ça. Ouais. Équipe du 13e, voilà. Et puis Stéphane, on va finir par le foot féminin, la Coupe de France. On aura un Paris Saint-Germain, Fleury Mérogis.
Comme d'habitude.
On tire au but.
Pour les deux équipes. Oui. Sont
alors on va rappeler Lyon-Fleury 0-0, victoire 5-4 de Fleury au tir au but. Et puis Paris-FC PSG qui s'est joué au stade d'Evry-Bondouf, match nul 3 partout et victoire du PSG 4-3 au tir au but.
Oui, tout à fait. 4-3, puis ça aurait pu faire 5-3 parce qu'ils n'ont pas fait tirer la dernière parisienne parce qu'ils étaient qualifiés. Mais c'est vrai que ça c'est comme toujours, on dit avant les demi-finales, qui ne voyait pas une finale PSG-Lyon, quoi, qui est la même finale que la saison dernière.
Comme quoi.
Donc peut-être que John Textor, qui estime que le Paris Saint-Germain ou les grosses équipes, je parle plutôt de Lyon dans ce cas-là, que ne sont jamais, on peut jamais les battre, on doit se contenter des liens. Bah, elles y ont cru. Fleury l'a fait. Paris FC a failli le faire contre le cours du jeu quand même, parce qu'ils étaient quand même. Là, je crois qu'ils ont tiré deux fois, ils ont marqué deux buts, quoi. Dont même un, c'est pas eux qui le marquent, c'est un but contre son camp de Karchaoui. Et puis Paris égalise, et puis finalement, l'emporte au tir au but. Ouais.
Ça sera le 4 mai, la finale. Hein,
Elle se joue à quel endroit, la finale, vous le savez ?
Je sais pas
non,
encore.
Ça n'a peut-être pas été défini.
Ça n'a pas été encore défini, mais ça sera le 4 mai à 17h. Merci Stéphane pour le point foot, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Je voulais savoir, ça vous aurait plu d'être coach dans le foot ?
Bien sûr. De toute façon, moi, j'aide tous les sportifs, en fait. Je ne me limite pas à...
Il y a eu des approches, non ?
Discipline.
Il y a eu des approches ?
Dans le foot ?
Ouais.
Oui. J'ai des jeunes sportifs, dans le football. Après, moi, je suis ouvert à tout ça.
Bien sûr.
J'aide l'humain en général, quelle que soit la classe sociale.
Frédéric, t'aimes bien le foot, j'ai vu.
Julien.
Julien, pardon, je ne sais pas pourquoi.
Moi, j'adore le foot. Camerounais, donc forcément... comme je le disais, fut un temps, on a eu une grande équipe.
Eh ben
c'est plus trop le cas maintenant, mais on reviendra. Mais oui, je suis énormément le foot. Je suis pas mal, la Ligue 1, la Ligue 2 un petit peu.
Ouais. Les clubs parisiens, là, le Paris FC, le Paris Atlético.
Oui, Paris FC, Paris Atlético. Bon, les clubs parisiens, forcément.
Je regarde que le Paris Saint-Germain, désolé.
Je
regarde que Paris. Moi, je suis 100% Paris et rien d'autre.
Et si t'as un joueur marseillais qui propose ses services, comment tu fais ?
Je suis ouvert.
Bon, il y aura des actions, Julien, dans le basket pour les jeunes, te concernant ?
Alors, concrètement, oui. Il se trouve, figure-toi, Philippe, que je... Alors, déjà, il faut savoir que Ball & Rise, donc, on est un podcast, on est donc un média. On a une chaîne YouTube. Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Pour ceux qui sont friands d'émissions qui portent sur le basket, la culture et le lifestyle, comme on dit, voilà, le mode de vie urbain, etc., vous pouvez nous retrouver sur Ball & Rise TV. Sur YouTube, Ball & Rise Official, donc B-A-2-L-N-R-I-S-E Official, donc O-2-F Cial, sur Instagram, voilà, sur Snapchat, pareil, Ball and Rise, sur Facebook, Ball and Rise, la page, qu'est-ce que j'oublie, TikTok, Ball and Rise, voilà.
D'accord,
là,
okay.
Tous les réseaux sont dits.
Et vis-à-vis des jeunes, on organise reprendre un jour, je sais pas, peut-être des responsabilités dans un club pour les jeunes.
Bah en fait, peut-être un jour. À un moment donné, j'ai voulu devenir agent. J'ai mis ça de côté.
Ouf.
Et,
Oui,
c'est
dans le foot, c'est déjà compliqué.
Oui,
alors.
Le basket, c'est une vraie paire de manches. Mais finalement, j'ai pris le parti pris d'organiser des événements de basket pour les jeunes jeunes garçons entre 13 et 17 ans. Voilà, donc le Ball and Rise Tour, donc c'est une tournée francilienne qu'on organise chaque année depuis 3 ans.
D'accord.
Et spécialement pour cette année, on va commencer donc une tournée, mais non pas francilienne, française. Donc on a 5 villes prévues, on a Rennes, Nantes, Toulouse, et mais c'est pas encore acté, c'est en pour parler. Le Mans,
oui.
Voilà, et la cinquième ville, c'est
Nantes, c'est une ville de foot, Toulouse, c'est une ville de rugby, il n'y a que le Mans qui est une ville de basket.
Oui, c'est ça. Donc, alors je t'ai dit quoi? Je t'ai dit
Nantes, Rennes,
Toulouse, Le Mans. Voilà,
et Châteauroux, peut-être.
Ouais, Châteauroux, peut-être.
Peut-être un jour, voilà. Et Bordeaux.
À Bordeaux.
Voilà.
Ouais.
Bordeaux qui est prévu. Ouais. Voilà.
Justement, Stéphane parlait de Bordeaux, des difficultés de Bordeaux. Bah, écoutez, merci. Merci, Morane. Donc, il y a un numéro de téléphone ou
contacter ? Pour me contacter, pour me joindre. Merci, Philippe, de nous avoir.
Oui, bah non.
Merci infiniment pour l'invitation.
Ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez me contacter sur mon site internet morian-coaching.com, sur LinkedIn, sur Instagram.
Oui.
Voilà.
Quels que soient les sports,
je suis ouvert pour tous.
Ouais. Alors, vite fait, tu me disais qu'il y avait un athlète qui prépare les Jeux actuellement, hein, tu t'en occupes.
Alors oui, j'ai un athlète notamment dans le saut en longueur qui prépare les Jeux Olympiques là. Mm-hmm. Et donc du coup, je le prépare notamment pour les Jeux Olympiques, dans sa préparation mentale, dans sa visualisation, dans son objectif des Jeux Olympiques.
D'accord, donc s'il y a une médaille, tu reviens avec lui, avec la médaille, d'accord?
Avec plaisir. Hein,
on peut savoir qui c'est?
Ouais.
Comment?
On peut savoir qui c'est?
Non, c'est confidentiel. Et je voudrais aussi faire une partie à ma binôme aussi.
Astrid Clément. Qui reviendra pour d'autres émissions.
Qui aide aussi les sportifs avec moi, notamment quand il y a beaucoup de volume. Mm-hmm. Elle intervient avec moi sur des gros effectifs. Et voilà, donc Astrid... D'accord.
Merci Morian pour le petit clin d'œil. Voilà, donc effectivement, je travaille avec Morian. Je suis aussi coach en développement personnel, coach aussi en amour.
Ouf.
En tout cas, voilà, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.missionbonheur.com.
D'accord.
Et voilà, mon Instagram Mission Bonheur, mon Facebook Astrid Clément. Et voilà, vous avez tout pour me contacter. Hein.
D'accord, très bien, merci.
Nous sommes localisés à Saint-Denis.
Oui, Saint-Denis,
et mairie de Saint-Ouen.
Ouais, oui, c'est fait exprès, près du Stade de France.
On prend tout.
Voilà, c'est fait exprès. Bon, Souleymane et puis Benoît, rendez-vous le mois prochain.
Carrément.
Ouais, vous aurez un mois aussi chargé que ce que vous avez eu là pour les 3 combats de boxe et de MMA.
Pas sûr, mais on espère.
Alors, bon. Chargé, oui, mais pour la communauté francophone, peut-être un peu moins.
C'est ça, voilà, c'est très bien.
Ça, en fait.
Eh bien, merci. Vanessa, le mot de fin pour toi, pour le badminton.
Bah oui, des beaux internationaux de France. Et puis, la semaine prochaine,
tout plein d'interviews. On reviendra sur cette...
Puis on reviendra un peu plus en profondeur sur ces internationaux.
Oui, on avait beaucoup de choses à dire ce soir. Voilà,
c'est ça.
Allez, merci à toutes et à tous. Merci,
merci
à
tous.
Merci.
Et puis, Léonard, on termine en musique. Dans un instant, donc, l'ami Malik, pour Au bout du foot, il va encore aller plus loin dans l'actu foot. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Allez, Dossier Jamel, c'est donc la musique de fin. Belle soirée à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Jamel, on me surnomme Poisson à cause d'un personnage du film Rai, je crois. Français, d'origine des Z, je viens de la cité des tilleuls à Blancoc, 9-3-35, balai, je bosse dans le textile, ma petite marque, je développe doucement, tranquille, une après-midi banale sur Paris, je suis pas loin de place de Clichy avec Laurie, une copine, il fait vite fait frisque, mais bon, c'est léger. Elle me parle de tout et de rien du taf qu'elle a délégué, des impôts et de ce putain de climat qui fait que se dérégler. Elle me dit qu'elle va pas tarder, donc je dis au serveur que je vais régler. voler. J'ai juste le temps de finir tiroter mon revêt. À peine le reparti, j'appelle mon prochain RDV. Jamila, ma soeur, si elle sent, voilà, crois pas que je rigole. Je lui dis de me rejoindre où je suis, pas loin de Batignolles. Elle me dit, viens, toi, s'il te plaît, je peux pas me déplacer. Flemme, j'essaie de négocier vu qu'en plus je suis à pied. Bref, elle m'explique qu'elle est vers Bastille, dans un petit bar brasserie, que c'est la nif d'une amie et que je n'ai qu'à venir. Finalement, je saute dans le métro le plus près. Tu dossais dans les écouteurs pour m'occuper. Dans les transports, au milieu des gens, je slalom. Je rejoins la ligne 9 et je descends à Charonne. 100 minutes de marche à pied, je suis à l'adresse indiquée. Je connais pas le lieu, première fois que j'y mets les pieds. Jamila me fait signe de les rejoindre en terrasse. Je m'approche, je lui fais une accolade, elle me présente à ses potes. Parmi eux, le boss des lieux, qui est aussi son ex-mari. Ainsi que celle dont c'est la nif, serveuse dans la petite brasserie, donc c'est à ses familles. L'ambiance est fun, je vais y rester un petit temps. On me demande ce que je veux boire, je dis que je voudrais bien un petit plan. Je suis en totale détente, limite il manque plus que le hamac. Et là, je serai carrément au max. J'aime bien jacter avec ma pote. Elle bosse chez Isabelle Marant. Un bon poste, alors elle me donne souvent des bêtes de tuyaux pour ma marque. Soudainement j'entends pac pac pac, le coup par coup avant qu'une rafale parte. Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient. Au premier rang y'a un peu de monde, du coup je vois pas bien. Ça court dans la hurle, ça bride sous les porches, ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge. À peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache, que je me retrouve au sol comme clou et truc de malade. Je sais même pas si je suis touché ou si c'est pas réflexe. Je vois ma chair, mes os apparents, j'ai le bras en pièces. Je connais les guerres de rue, mais là c'est la guerre tout court. C'est quoi cet enfer, 5 minutes plus tôt c'était tout cool. Et je sais même pas si le gars est seul ou s'ils sont venus à plein. Tout ce que je sais c'est que putain je suis atteint. Autour c'est l'hécatombe. Pendant que ça continue de tirer, t'as ce foilier qu'avance en marchant sur les corps. En cherche de gens à finir, donc je fais mine d'être mort. Je me remange quelques balles. Oh merde, c'est quelque chose. Je sais même plus si j'ai mal. C'est comme si mon cerveau avait mis mes terminaisons nerveuses sur pause. Tout va si vite, pourtant ça me semble être une éternité. Alors ça y est, on parlera de moi en disant RIP. Je revois les gens qui m'aiment, je pense à ce que j'ai laissé filer. Est-ce que c'est ça que les gens appellent voir toute sa vie défiler? Puis les coups de feu cessent. Y'a comme un air de fin des temps. Les types remontent en caisse. Et se barrent en criant que Dieu est grand. Je réalise que je suis encore vivant, en train de me vider de mon sang. Je veux me réveiller de ce cauchemar et voir que rien n'est réel dans cette soirée-là. J'appelle à l'aide et je fais que demander où est Jamila. Et je la vois à quelques mètres de moi, allongée sur le dos. Je m'appuie sur un de mes bras et me hisse jusqu'à elle. Je la sens caresser le crâne du bout de ses doigts, comme pour me dire tout va bien, Jamel. Je me sens partir, donc faut que je me force à vivre. Les minutes passent et les secours arrivent. Me voilà sous perf, couverture de survie, masque à oxygène. Mais où est mon ami? Je suis dans l'ambulance, direction l'hôpital. Expédié en urgence, au bloc opératoire. Réveillé le lendemain, mon pronostic vital n'est plus engagé. C'est une première victoire, me voilà alité. Le bras gauche plein de broches et immobilisé. La jambe droite toute bandée, je sais même pas ce que j'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que je sens plus mon pied. Avez-vous vu mon ami, s'il vous plaît? Mais Jamila nous avait déjà quittés. On est 7 piges après, j'ai le pied droit amputé. 13 novembre 2015, ma vie a basculé. La vérité, c'est que je suis miraculé. Et je dois la vivre à fond, cette vie-là. Celui qui se lève le matin, pose ses deux pieds sur le sol, ne se rend même pas un peu compte de la chance qu'il a. Mais moi, si, y a pas un jour que je pense pas à Jamila. Et aujourd'hui, j'ai une fille, je lui veux mon existence. Les vibes sont positives, j'ai appris la résilience. J'ai envie d'évasion, de voir commencer autre part. Le monde est vaste, Allahu Akbar.
Move back, EFAN.